Bonjour à vous tous, mon nom est Chantal Lavoie, bienvenue à la toute nouvelle émission C'est classique sur les ondes de Canal M, émission qui sera dédiée à la musique classique et principalement à la scène musicale d'ici. J'aurai le plaisir de vous faire découvrir ces artistes, chanteurs, musiciens, directeurs d'orchestre et de partager avec vous cette passion qui les anime et qui contribue à nous transmettre cette beauté en portant vers nous les plus belles œuvres du répertoire. Il y aura aussi ceux qui s'investissent différemment à travers l'enseignement, le mécénat, la composition, la musicologie, la diffusion et la programmation. Bref, des gens inspirants. Pour les débuts de l'émission C'est classique, j'accueille comme invitée l'inspirante contralto Rose Naguère-Tremblay, qui a déjà une magnifique carrière tant ici qu'à l'étranger. Elle terminait une saison très chargée aux côtés des Violons du Roi à la Salle Bourgie en juin dernier. Nous conclurons cette demi-heure avec notre collaboratrice à l'émission, Béatrice Cadrin, rédactrice en chef du média numérique Ludwig van Montréal. Mais d'abord, écoutons un extrait de l'album Handel Gourmand, premier album solo de Rose Naguère-Tremblay. C'était Ambra Mai Fu de l'opéra Circe de Handel, un extrait de l'album Handel Gourmand de Rose Naguère-Tremblay en compagnie de l'orchestre de Toulouse. Bonjour Rose.
Bonjour.
Très heureuse de te recevoir. Alors c'est ton premier disque solo consacré aux grands airs d'opéra et d'oratorio de Handel sous le label Arion.
Oui, une première collaboration avec Arion.
Alors quel album? Et écoute, au début de l'émission, je disais que j'avais le goût de recevoir des artistes, des chanteurs, des musiciens inspirants. Tu es notre première invitée de cette nouvelle émission, justement parce que tu es inspirante. Je pense que les auditeurs l'ont senti juste avec ta voix. Alors, évidemment, qu'est-ce qui a été ton choix, c'est-à-dire Handel, pour ton premier album?
Bien, c'est sûr qu'il y a un petit sentiment d'imposteur au moment où on se devait offrir le privilège de faire un premier album solo. Puis je me suis dit, bon, quand, mon choix se portait sur tout, parce que moi, déjà, de nature, je suis gourmande et j'ai envie de tout chanter. Puis je me suis dit, très humblement, Handel, c'est le compositeur que j'ai le plus chanté, avec le plus de chefs différents, que j'avais eu le plus de temps pour maturer dedans, parce que je suis quand même jeune, j'ai encore mon chemin à faire. Donc, je ne me dirais pas encore du tout une spécialiste handelienne, mais déjà, c'était le répertoire que je sentais que j'avais le plus de matière autour de là, c'est que je pouvais défendre avec le plus d'informations possible.
Oui, Handel, c'est l'apogée de la musique baroque, bien sûr. Alors, est-ce que aussi c'est en lien avec ta voix?
Ah bien, absolument. C'est sûr que moi, étant une jeune contralto, le répertoire handelien à lui seul pourrait contenir 10 ans de carrière, 20 ans de carrière, puis je ne me tannerais pas, là, il y en a tellement. Donc, évidemment, dans une question de d'entrée en marché, moi, comme interprète, c'était un peu une carte de visite de rêve pour pouvoir me vendre, là, parce que c'est vraiment le répertoire dans lequel il y a probablement le plus de rôles que je peux interpréter.
Tout à fait. D'ailleurs, tu as même fait un rôle d'homme. Oui, tu t'es transformée en Jules César.
Oui, même plus qu'un, mais oui, puis ça, c'était drôle parce que j'étais engagée, puis c'était juste après avoir enregistré mon album, j'étais engagée pour chanter Cornelia au Capitole de Toulouse.
Oui.
Ça devait être aussi ma première collaboration avec Christophe Rousset, qui est un grand maestro de la musique baroque, notamment. Et puis, j'étais très nerveuse pour cette prise de rôle-là. Et puis, donc, j'enregistre mon album. Puis là, je devais avoir une semaine de congé puis qu'on commence les répétitions pour Cornelia. Bien, pour Cornelia dans Jules César. Puis là, je reçois l'appel du directeur artistique Christophe Gristi du Capitole qui me demandait, hey, « Toi, est-ce que tu ferais Jules à la place? » Puis là, j'étais comme, « Bon, ça, c'est une offre qu'on reçoit une fois dans notre vie. » Tu sais, c'est vraiment à 7 jours d'avis, là. Puis je le connaissais pas. J'avais jamais chanté aucun des airs de Jules César. Je savais, par contre, que ça m'irait bien, notamment parce que je venais juste d'enregistrer l'album, que j'avais toutes les tessitures, toutes les coloratures, les tournants. Tu sais, il y a quand même un langage spécifique à chaque compositeur. Donc, quand tu as le langage dans la voix, dans les cordes, je savais que ça ne me prendrait pas de temps de me le mettre en voix. Puis j'étais comme, OK, ben ma semaine de vacances... Ma réponse à Christophe Grissier, c'était, ah, ben j'avais rien à faire cette semaine.
Donc, on va...
Donc, allez, on apprend un des plus gros rôles.
Oui, tout à fait. Alors, tu l'as fait même en veston-cravate parce que c'était...
Ouais.
En fait, c'était actualisé, veut, à l'opéra.
Oui,
tout à fait. Alors, il y a ça, mais bien sûr, tu as fait aussi Carmen. Je dois dire que tu es quand même une personne flamboyante physiquement. Tu es très grande et alors, tu as une stature. Donc, ça impose aussi un type de rôle. En même temps.
Ouais,
en tout cas,
vrai.
Ça inspire les metteurs en scène, très certainement.
C'est vrai que ça m'a pris du temps à comme le réaliser. Moi, je me suis toujours sentie, mettons dans mon adolescence puis mes jeunes années, là, je me sentais très délicate à l'intérieur, très frêle, j'avais comme l'impression d'avoir un casting de jeune première, ce qui n'était pas du tout ce que les gens recevaient en me regardant. Puis il y a comme eu quelques années de négociations où j'ai appris à remplir le corps qui m'a été donné, tu sais, à la naissance, à l'habiter, puis à l'incarner. Puis ça a été des années complexes pour moi sur le plan, je dirais comme presque identitaire, de comprendre ce qui était perçu versus ce que moi je ressentais en dedans.
C'est ça, de te définir aussi.
Ouais,
et
de...
en plus, parce que tu as commencé très jeune, hein, la musique, le piano, le chant choral.
Ouais.
Je pense que tu as fait même le choix d'aller en chant classique. Tu avais quoi, 12 ans?
Oui. C'était suite à ma première visite à l'Opéra de Montréal. D'ailleurs, une initiative que j'applaudis, puis qui font encore aujourd'hui, c'est d'ouvrir les générales au public scolaire. Donc, gratuitement, tu sais, ça donne l'occasion à des jeunes de vivre l'opéra pour la première fois, puis de rentrer dans cet espace-là, justement, Wilfrid Pelletier, qui est encore énorme, puis de j'assistais à La Flûte enchantée, donc c'est une grande production, un grand déploiement. Ça répondait à ce besoin que j'avais de me sentir petite, en fait, parce que moi, en dedans, je me sentais encore très petite, même si je mesurais déjà presque 6 pieds à 12 ans. Puis c'était comme cette réponse-là où j'avais besoin, moi, d'appartenir à un monde gigantesque pour trouver ma place, tu sais. Puis l'opéra, ça m'a vraiment fait cet effet-là dès la première production à laquelle j'ai assisté. Puis je voulais tout faire, tu sais. Je jouais du piano, mais je faisais de la danse, je faisais je dessinais, je faisais tout, là. Tout m'intéressait. J'étais vraiment avide d'expression créative. Puis en arrivant à l'opéra, j'ai vu, mais tous les arts existent ici au sein même d'une expression collective.
Oui.
Puis ça m'a beaucoup
l'intérêt
parlé.
L'intérêt pour le théâtre, donc ouais. Effectivement, ça t'a parlé. Alors oui, tu as du talent aussi pour tout. Ça, c'est bien en même temps.
Ben,
oui.
Ça se cultive. C'est pas vrai que j'ai du talent dans tout, mais ça se cultive.
Mais parce qu'on sait aussi que non seulement tu fais du chant lyrique, enfin, tu fais de l'opéra et tout, mais tu composes en même temps des pièces. Alors, tu as même accompagné Robert Charlebois sur scène, alors, pour Robert Charlebois Symphonique avec l'OSM.
Et puis, c'est pas fini, parce qu'on va refaire des concerts ensemble. Oui, il m'a invité à refaire ses concerts... Charlebois-Scope, là, qu'on va faire autour du jour de l'an cette année, donc à surveiller dans les salles. Là, ça va vraiment être son show rock à lui.
OK.
Puis c'est ça, ça va être à Montréal et à Québec.
Oh, c'est merveilleux. Alors, c'est ça, tu te moules facilement et donc avec tes propres compositions, bien sûr. Et écoute, là, je vais dire au public qu'on a un peu triché aujourd'hui en ce sens qu'on enregistre l'émission parce qu'au moment où l'émission est diffusée, eh bien, tu es nouvellement maman, si on peut dire. Alors, ou enfin, presque, ce sera presque le temps pour toi d'accoucher, si ce n'est pas fait, mais ça sera étonnant. Alors, c'est un garçon, hein, je pense. Alors, oui, peut-être un futur. Futur chanteur?
En tout cas, je sens déjà qu'il y a une belle écoute pour la musique. Parce dès que je suis dans un environnement musical, il est hyper attentif. Oui. Il bouge
en plus, il est au cœur même de ton instrument, de ton corps, de ta caisse de résonance, de ta voix. Enfin, c'est quelque chose quand même. Hein?
Ouais.
J'imagine que ça doit être sûrement très particulier d'avoir une maman chanteuse comme ça quand on est dans le ventre de sa maman. Alors, écoute, tu as fait évidemment tes débuts là, à l'opéra à l'étranger parce que aussi rapidement, c'est-à-dire tu suis des cours, bien sûr, et tu vas suivre des cours aussi à distance avec, je pense, des gens qui sont devenus des mentors. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de te souhaiter mes condoléances parce que tu viens de perdre quelqu'un de très important pour toi qui a été une mentor et qui, malheureusement, est décédé tout récemment. Alors, évidemment, ça prend des gens comme ça qui ont fait la différence dans ta vie, qui t'ont fait rencontrer aussi de belles personnes.
Ouais.
Et donc, autour de quoi, 2021, tu commences à l'opéra à Sofia?
Oui.
Alors là, déjà, c'est un premier engagement. Et c'est qui? Quel est ton rôle? C'est Carmen.
Oui, mais c'est drôle parce que ça aussi, c'est une histoire de remplacement de dernière minute parce que je devais chanter Mercedes sur cette production-là et la Carmen s'est désistée. Et en fait, j'avais pas pensé à ça en vous racontant Jules César tout à l'heure, mais finalement, c'est un peu la même situation. Puis j'ai un petit peu menti à l'époque à la production parce que j'étais en train de faire une production de Carmen à Montréal, mais c'était une production... hip-hop, avec des trames sonores où on chantait dans la rue. C'est une version condensée aussi. On faisait juste une demi-heure de musique, mais les grands airs y étaient. Et puis quand ils m'ont dit que la Carmen s'était désistée, j'ai tout de suite répondu « Ah, je suis en train de le faire à Montréal. Est-ce que vous voulez que je fasse Carmen à la place de Mercedes?
»
Donc là, c'est même pas une invitation. C'est vraiment moi qui me suis imposée. Puis en trafiquant un peu la réalité, j'ai réussi à inspirer confiance au directeur. Mais ça, c'est un pari qu'on fait. Tu sais, ça fait 5 ans. Fait que j'avais comme 28 ans.
Alors, tu avais, comment dire, le front de la jeunesse.
Oui, exact. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes des risques. Tu sais, puis, tu sais, Mercedes, c'est un beau rôle, mais c'est pas un rôle qui se fait remarquer beaucoup. Tu sais, c'est pas vrai. Là, je pense qu'on peut se faire remarquer dans absolument tout et n'importe quoi. Au Capitole, la première fois que je suis allée, je faisais un mini-rôle qui mesurait genre 2 pages. puis ça reste que c'est ça qui a convaincu Christophe Grissi de me confier Jules César l'année d'après. Donc, on sait jamais dans quoi on va être remarqué. Mais ça, j'avais très envie aussi de défendre Carmen. Je l'avais déjà fait en version piano, intégrale, mais juste piano-voix. Donc, je savais que j'étais capable, j'avais l'endurance du rôle. Puis là, c'était juste une question de, encore une fois, le rafraîchir à l'intérieur de quelques jours de préavis, partir en Europe. Je fais ma première Carmen. Et c'est suite à ça aussi, tout de suite après, je m'envolais pour Paris, où je chantais dans le concours UNESCO à Paris.
Tout à fait.
Qui a fondé la mentor dont vous parliez, Alina Pavalach, qui est décédée hier ou avant-hier, des suites d'un cancer du cerveau. Donc ça m'a vraiment bouleversée.
Alors, au moment où on enregistre l'émission, vous êtes déjà bouleversée par ce départ, bien sûr.
Ouais.
Et bon, ensuite, Carmen, vous allez la reprendre à Toulouse aussi, plus tard. Est-ce que je me trompe?
Non, j'ai pas repris Carmen à Toulouse.
C'est pas ailleurs, fait. Non, c'est ça, vous ne l'avez pas repris.
Je l'ai fait vous êtes pas retourné.
Ah, c'est à Edmonton,
oui.
Je m'excuse.
Oui, c'est ça. Ouais. À Edmonton, j'ai fait une nouvelle production de Carmen, puis sinon, je l'ai fait ici, à Saint-Eustache, au festival d'été Le Fosse, en version piano-voix à nouveau. C'est sûr que c'est un rôle qui me colle à la peau. Ça me colle à l'identité aussi, là, cette femme qui incarne la liberté, puis qui n'en fait qu'à sa tête, oui. Qui a un côté aussi populaire dans son écriture vocale, t'sais, le côté gitan, finalement. Oui.
Alors, ça te ressemble, Rose?
Oui, ça me ressemble tout à fait. Donc, c'est un rôle que j'aime garder en vie. Puis, oui. Je suis retournée le faire à Sophia 3 fois.
Ah, d'accord, c'est oui, ça. J'avais l'impression que tu étais retournée, là.
Oui, à Sophia.
D'accord.
Oui.
Et puis, bien sûr, c'est enchaîné d'autres engagements en France, en Allemagne, bien oui. sûr. Alors, c'est vraiment une belle carrière qui s'est amorcée assez rapidement, oui. un peu sur des chapeaux de roue, au fond.
Oui.
Alors, et puis ici, ben, ça continue également. Il y a des engagements de toutes sortes. Mais comment, là, évidemment, tu es au moment, comme je le disais, où l'émission est diffusée. Tu es nouvellement maman. Comment tu envisages la suite des choses? D'ailleurs, bon, il va y avoir une pause cet été, mais tu disais que c'est quand même pas une longue pause. Là.
Non, je prends l'espèce de 6 semaines obligatoires là, sur le plan médical pour se remettre d'un accouchement, ce qui est recommandé, disons, sur le plan médical. Mais après, je vais tout de suite en studio pour un enregistrement. Puis ensuite, j'ai déjà un concert cet été que je ne suis pas sûre que j'ai le droit d'annoncer, fait que je vais me taire. Ouais. Mais vous surveillerez les programmations estivales à Montréal, bien. Mettons.
Ouais.
Puis après ça, c'est plein feu. Là. C'est vraiment une saison pleine. Ceci dit, c'est une saison qui a l'avantage d'être presque entièrement à la maison.
Ah, d'accord.
Donc, je fais des productions à l'Opéra de Montréal, à l'Opéra de Québec, avec l'OSM, avec l'Orchestre classique. Je ne veux pas oublier, avec Imouzichi. Puis ensuite, je vais un petit peu dans l'Ouest du Canada aussi, à Vancouver, à Winnipeg. Donc, ça va y aller. Là. On s'envole en famille.
C'est mais... ça, conciliation travail-famille. Ouais. Donc, le conjoint est prêt à s'envoler avec toi.
J'ai la grande chance d'avoir un conjoint extrêmement généreux, extrêmement engagé dans ce que je fais musicalement, artistiquement. Lui aussi, quand il travaille, il travaille en informatique. Donc, il peut continuer à travailler sur la route. Mais cette année, il sait que je ne veux pas perdre l'élan. C'est toujours l'enjeu, c'est qu'on arrive disons, à l'accomplissement de comme 20 ans d'efforts, de mise en... Tu sais, si on se dit, là, moi, je suis tombée enceinte à 33 ans, donc ça faisait 20 ans que j'avais décidé que je me dédiais à avoir une carrière lyrique, puis ça faisait peut-être 2 ans que ça avait fonctionné, que j'étais à temps plein, là, que j'étais vraiment sur la route à l'international à m'accomplir, à réaliser mon rêve. Donc, il y a quelque chose de frustrant de... Tu sais, au moment où j'ai commencé à travailler à temps plein comme chanteuse, c'était aussi le moment où ben, mon corps me disait « si tu veux des enfants, c'est maintenant que ça se passe », tu sais. Fait que,
Oui, bien sûr, puis on essaie de trouver le bon moment, la fenêtre.
Exact.
Parce qu'on n'a pas le choix.
C'est ça.
Mais finalement, on s'aperçoit que tout fonctionne. On est capable de bien s'organiser.
Ouais. J'ai eu une très belle conversation avec Robert Gonella, qui est un grand coach, grand répétiteur, qui était le répétiteur à Toulouse. Quand j'ai monté Jules César, puis je lui parlais de ça, puis je disais que j'étais préoccupée parce que j'avais envie d'avoir un bébé, mais là que je voyais, j'avais mes débuts à la Scala qui s'en venaient, je devais faire un retour au Bayerische Staatsoper cette année, donc c'était comme des grands objectifs que j'avais. Puis il m'a dit, tu sais, à un moment donné, si tu continues à travailler fort puis que la chance continue de ton côté, ce qui a l'air d'être le cas, les offres vont devenir juste de plus en plus difficiles à refuser. Donc si tu veux une famille, fais-la. Fais-la, puis du reste, la vie va se tricoter autour, tu sais.
Oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. On a dit bien de belles choses sur vous, bien sûr, et de l'album aussi. Contralto affirmé, la jeune interprète déploie une voix large au timbre ténébreux, voire pénétrant, une artiste qui assume pleinement les codes, la virtuosité et la rhétorique du répertoire baroque et classique. Alors, vraiment, France Musique dit une contralto canadienne, retenez bien son nom, le timbre est magnifique, il y a de la puissance, du souffle, de l'émotion, une superbe voix nouvelle. Alors ça fait finalement une belle carrière, tant ici qu'à l'étranger, inévitablement. Et il y a d'autres projets, j'imagine. Oui, c'est ça, peut-être qu'on peut en parler. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des rôles vraiment auxquels tu voudrais t'attaquer, là?
Oui, bien moi, ça fait un petit bout que je sens que je suis prête pour Dalila.
Mais maintenant que tu as l'audace, que tu es capable d'imposer des rôles.
Oui, c'est ça. Non, puis je le dis, je le répète souvent, même sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je croise quelqu'un, je leur dis, bon, quand est-ce qu'on fait d'aller là ensemble? Je veux dire, c'est... les gens le savent, là, que je l'attends, fait que je me dis qu'elle va, elle va finir par arriver au revers, là. Mais de toute façon, c'est un rôle que, à un moment donné, c'est comme Carmen. Quand tu t'affiches, puis que tu l'incarnes, puis que ça fonctionne, bien, c'est un rôle que tu peux chanter toute ta carrière. Donc, je suis pas si pressée que ça. Je me dis, à un moment donné, je vais la défendre, puis il en pleuvra des Dalila. Après, c'est pas un opéra qui est monté si souvent que ça.
Ouais, c'est vrai.
Donc, je pense que c'est pour ça que je l'attends un petit peu.
Alors, sinon... tu es encore dans la jeune trentaine.
Oui, c'est ça. J'ai encore le temps.
Oui, exactement. Évidemment, on parle de toi comme la nouvelle diva québécoise, mais en fait, tu n'as rien de la diva inaccessible. Ça, c'est évident. Alors, c'est sûr que les études, la formation, les concours aussi, ça, c'est déterminant dans une vie d'artiste, de chanteuse.
Oui, je pense que le gros coup de chance qu'il y a eu sur mon parcours, c'est le timing des opportunités qui m'ont été données. Tu sais, je disais tout à l'heure, j'ai fait le concours UNESCO. Bien, le concours UNESCO m'a permis de signer avec une première agence en France. Puis c'est suite à cette signature-là que les contrats ont commencé à rentrer en Europe. Au Canada, juste après, j'ai remporté le concours de l'OSM.
Tout à fait.
L'OSM, c'est quand même une de nos grandes institutions nationales. Donc, quand tu chantes avec l'OSM, bien, ça attire l'attention de tous les autres orchestres. Et donc là, j'ai commencé à avoir une belle notoriété de concertiste aussi, de soliste de concert. Après ça, il y a eu la bourse de carrière Fernand Lindsay qui est arrivée juste après, en même temps que j'ai été nommée Révélation Radio-Canada. Mm-hmm. Donc là, ça m'a donné tout d'un coup de la visibilité et des moyens. Puis ça, c'est vraiment quelque chose à nommer. La bourse de carrière, c'est une bourse de 50 000 $
quand même,
qui a été dépensée en à peu près 2 ans. la coordinatrice m'a dit que j'étais la récipiendaire qui a dépensé sa bourse le plus vite. Mais en même temps, c'est parce que j'avais les occasions.
Et oui, tu étais très occupée, ouais. Alors forcément. Et bon, tu as été artiste en résidence à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal de 2017 à 2020. C'est quand même toute une formation.
Ouais.
C'est la crème de la relève, l'Atelier
lyrique de l'Opéra. Ah oui, absolument. Ça vraiment, ils te prennent où est-ce que tu es, puis ben, c'est vraiment, c'est un incubateur, là, ça va extrêmement vite. Moi, c'est à l'atelier que j'ai aussi affirmé mon désir d'être librettiste, de composer, d'être impliquée dans la création de ce que je chantais. Ils m'ont donné l'occasion de terminer comme projet de graduation. Disons, mon dernier projet, ça a été la création d'un cycle qui s'appelle Healing, que j'ai écrit, mais que j'ai aussi co-composé avec Éric Champagne.
Un grand compositeur de chez nous.
Oui, puis là, je suis très heureuse de vous partager que cette année, on reprend l'œuvre, mais en version orchestré pour orchestre à cordes avec Imusici. Donc là, ça, c'est vraiment un rêve qui s'accomplit parce que c'est de pouvoir chanter ce qu'on a écrit ensemble à grand déploiement, que ça existe sur scène. Déjà, il y a quelques interprètes qui l'ont repris. Je sais que ça m'a fait un grand plaisir en contexte universitaire, puis en récital. Puis là, bien, il va exister en format arrangé pour orchestre.
Oh, c'est bien.
Ça fait très plaisir.
Ah, c'est merveilleux. Alors, évidemment, tu as travaillé avec les Yannick Nézet-Séguin, Raphaël Paillari, enfin, les gens que l'on connaît bien ici. Et ben, ton album est disponible en ligne, bien sûr. Alors, c'est ça, on écoutera plus attentivement, bien sûr. On va en écouter un autre extrait tantôt. Alors, merci, Rose, d'être venue, d'avoir été notre première invitée. Alors, on a cassé la glace ensemble. Merci infiniment.
Merci.
Et puis, bonne suite avec tous les projets qui s'en viennent.
Merci.
Dès l'automne. Et puis, bonne suite aussi avec le nouveau bébé. Alors, merci encore à toi.
Bon succès.
Merci. Au revoir. A speedy flight will take. Avant de se quitter aujourd'hui, on va faire la rencontre de Béatrice Cadrin, qui est la rédactrice en chef de la plateforme ou du média numérique, si on veut, Ludwig van Montréal. Alors, bonjour Béatrice.
Bonjour Chantal.
Et tu seras une de nos collaboratrices durant l'émission, enfin, à ta guise. Tu viendras comme bon te semble, parce que je sais que tu es très occupée, bien sûr. Alors, tu vas collaborer à l'émission, tu vas nous faire tes suggestions de concerts, d'événements, enfin. Et alors, c'est ça, tu vas être là pour parler notamment cet été des festivals, entre autres.
Effectivement, les festivals de musique qui ont lieu pendant l'été, il y en a toujours énormément à Montréal, autour de Montréal, puis dans toute la province. Et puis, ça va me faire grand plaisir de venir faire mes suggestions puis de parler de tout ça.
Avec... Oui, c'est quelque chose qui t'occupe énormément parce que tu tiens vraiment le calendrier à jour et avec des entrevues et tout. Alors, tu dois toi-même aussi aller assister à plein de concerts.
Oui, effectivement. J'essaie de m'en tenir à un pendant les jours de semaine puis un la fin de semaine, mais je t'avoue que c'est très rarement ça.
Oui, c'est ça. Puis là, bien, évidemment, il y a des festivals qui ont déjà commencé. Le Festival Classica qui partait le bal au mois de mai jusqu'au 14 juin. Il y a le Festival Montréal Baroque aussi qui est derrière nous. Et là, c'est le Festival de la Naudière qui va commencer, là, qui prend son envol.
Oui, le grand Festival de la Naudière à l'amphithéâtre Fernand Lindy, qui est toujours une expérience agréable.
Ah oui, absolument. C'est tellement beau, cet amphithéâtre et puis toute la nature environnante. Il y a le Festival du Domaine Forget aussi dans la belle région de Charlevoix.
Également un très beau site. Évidemment, c'est beaucoup plus loin à partir de Montréal ou même de Québec. C'est une bonne expédition, mais ça vaut la peine.
Mais ça vaut la peine. Ça aussi, c'est un site incroyable. Quand on est touriste, là, quand on se balade, c'est vraiment magnifique. Et il y a le Festival Orford Music hein, qui commençait le 10 juin dernier. Alors ça, c'est pour tout l'été. Et on célèbre un anniversaire hein, cette
Effectivement,
année.
Effectivement, le Festival Orford Music célèbre ses 75 ans cet été.
Hey, quelque chose. Alors, c'est ça. Donc, les concerts dans les parcs aussi.
Et effectivement, puis, beaucoup d'activités. De concerts dans les parcs. Alors, ceux qui sortent pas nécessairement de l'île de Montréal, qui n'ont pas l'opportunité ou qui cherchent quelque chose proche de la maison, il y a les concerts de la Chine, il y a l'Institut canadien d'art vocal, il y a les concerts de l'Orchestre métropolitain présente quelques concerts dans des parcs, l'Orchestre symphonique de Montréal également, puis évidemment sa grande virée classique au mois d'août.
Tout à fait. Alors vraiment beaucoup d'actions cet été, c'est sûr, c'est foisonnant. Alors, et quand je pense que tu seras là pour nous parler évidemment de certains concerts que tu auras auxquels tu auras assisté aussi en partie. Et puis, écoute, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, même si ça a été court, mais on va se reprendre parce qu'on va se faire quand même une émission pas complète, mais presque. On va parler de toi de façon beaucoup plus exhaustive, façon de parler de toutes tes activités. Merci beaucoup, Béatrice.
Merci de l'invitation, Chantal.
C'était l'émission C'est classique. Ici Chantal Lavoie, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.